Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Début de la semaine d'action solidaire au Brésil. En attendant les 28e journées mondiales de la jeunesse à Rio, des milliers de jeunes de plus de 170 pays à travers le monde sont accueillis à partir de ce lundi dans les diocèses brésiliens. Vous entendrez le père l'abbé qui accompagne un groupe de jeunes français. L'Afrique a besoin d'un bon samaritain en politique, l'appel des cardinaux, archevêques et évêques du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Ils ont achevé 8 jours de discussion à Kinshasa pour apporter la réconciliation, la justice et la paix à leur continent. Et puis enfin au Bangladesh, un verdict pourrait mettre le feu aux poudres. Le leader religieux d'un important groupe musulman a été condamné à 90 ans de prison. Les chrétiens et bouddhistes craignent d'être les victimes du bras de fer entre musulmans et gouvernement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican, magazine en langue française. Dans quelques jours, le Brésil accueillera, on le sait, les premières journées mondiales de la jeunesse depuis l'élection du pape François. 2 500 000 pèlerins venant de 170 pays sont attendus à Rio de Janeiro le 20 juillet prochain, le temps de s'installer avant le coup d'envoi de l'événement le 22, le début officiel des JMJ avec la messe d'ouverture le 23 juillet au soir. Mais ne brûlons pas les étapes car ce lundi, les fidèles doivent faire leur premier pas au Brésil. Ils sont répartis dans différents diocèses pour une première semaine d'action solidaire. Parmi eux, des centaines de jeunes Français. Selon la Conférence des évêques de France, 5 500 fidèles de 96 diocèses et de 13 communautés françaises seront à Rio contre 4 500 lors des JMJ de Sydney. L'équipe de coordination française est aujourd'hui en lien avec les responsables de chaque groupe pour leur donner des conseils en amont et maintenant sur place. Ces JMJ sont l'aboutissement d'une année d'initiatives, de rencontres dans chaque diocèse français pour se préparer spirituellement à ce temps fort de la foi de ces jeunes. Ils seront accompagnés bien sûr par de nombreux prêtres, parmi eux le père François Labbé du diocèse de Meaux. Il est interrogé par Olivier Tosserie.
Ce qui est sympathique, c'est qu'au retour de Madrid, il y a 5 jeunes qui sont venus me voir tout de suite en descendant du car et m'ont dit « on veut partir aux prochaines JMJ, est-ce qu'on peut faire partie de l'équipe diocésaine ?» Alors déjà, le dynamisme était présent, donc ces jeunes ont travaillé avec moi pour mettre en place l'organisation. Et puis, à peu près une moitié sont quand même des nouveaux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les JMJ attirent toujours. Et on a encore aujourd'hui, à presque un mois du départ, des demandes d'inscription. De nouvelles personnes qui entendent parler des JMJ à droite à gauche, dans leur paroisse, dans les médias. Donc ça continue d'affluer.
Quelles sont les attentes des jeunes vis-à-vis de ces JMJ?
Alors vis-à-vis des JMJ, ils attendent de rencontrer vraiment une culture différente, parce que le Brésil, c'est vraiment un très grand pays, un pays en développement, avec... une richesse qui a l'air très belle à partager et ils souhaitent, eux, vivre ces rencontres particulièrement avec des jeunes, avec les familles. C'est pour ça qu'on favorise les logements en famille pour qu'ils puissent vraiment rencontrer la réalité brésilienne.
Qu'est-ce que ça représente dans un parcours de foi pour ces jeunes, la participation au JMJ?
Généralement, dans tous les bilans qu'on peut faire, c'est vraiment un temps fort de leur foi et un temps qui les enracine. Ils consolident leur expérience chrétienne. Souvent, ils sont un peu tout seuls ou un peu perdus ou très peu dans leur travail ou dans les études. Et là, de vivre ensemble avec d'autres chrétiens, un temps fort, ça les booste dans leurs engagements après. Et puis effectivement, comme je vous le disais, certains désirent après s'engager dans des services paroissiaux ou même des services diocésains. Donc il y a quand même cette dimension d'action derrière. Il y a le temps spirituel, la rencontre d'un autre monde, et puis le désir de s'engager.
Beaucoup de ces jeunes que vous allez emmener à Rio font partie de mouvements?
Quelques-uns, parce que nous, on a dans notre diocèse, on a privilégié plus les jeunes qui étaient dans les paroisses, dans les secteurs paroissiaux. Quelques-uns sont en mouvement, mais ce n'est pas l'ensemble du groupe. C'est plutôt marginal pour nous.
Est-ce qu'il y a des appréhensions, des questions, des doutes ?
La question des jeunes actuellement, c'est de savoir un peu où ils vont atterrir. Ils souhaitent un peu savoir c'est comment ils vont vivre. Alors, on a l'avantage qu'il y a les semaines missionnaires dans les diocèses avant. Nous, nous allons aller à Campinas, dans la communauté Pantocrator, une communauté nouvelle au Brésil. Donc, on va être accueillis par cette communauté. On va vivre avec eux différents temps d'évangélisation, des rencontres culturelles, bien entendu, des visites aussi. Voilà, donc c'est un petit peu ça que les jeunes, pour l'instant, posent comme question. C'est, on est prêt à partir et à vivre des belles choses. Ils ont envie de savoir déjà le programme.
Ça va être le premier voyage international officiel du pape François. Est-ce que vous notez une impatience de la part des jeunes de le rencontrer ?
Il y a cette curiosité, comme toujours, de rencontrer notre nouveau pape. D'autant plus qu'il a un message, je crois, qui est parfois accessible pour nos jeunes. On le voit bien dans ses homélies quotidiennes. Et je pense que les jeunes attendent de lui une parole forte pour les dynamiser, les encourager dans leur foi, dans le monde actuel et surtout en France, où nous, effectivement, on a toujours à témoigner de notre vie chrétienne. On a besoin d'être renforcés dans ce témoignage. Je crois que nos jeunes attendent quelque chose de la part de notre Saint-Père.
Dans des pays comme la France, très sécularisés, le fait de pouvoir voir d'autres jeunes chrétiens, c'est une source d'espérance ?
Oui, oui, toujours. Vraiment, ce que je remarque, moi, au BJMJ, à force d'en accompagner et puis de voir les jeunes avec, les vivre, c'est vraiment cette dimension de comment je peux vivre ma foi dans un autre milieu. Et du coup, quand je reviens chez moi, je m'interroge et cela me donne à réfléchir et du coup aussi à agir pour continuer ce témoignage de foi. Ayant vu d'autres manières de faire, ça me permet de m'interroger et aussi de me situer. Donc les JMJ sont un bon élément pour ça, pour la vie d'un jeune 18-25 ans par exemple. Ça permet vraiment d'approfondir sa foi, de la mûrir.
Vous avez participé à plusieurs JMJ. En tant qu'accompagnateur, qu'est-ce que vous trouvez donc dans cet événement et quelle particularité a pour vous ces JMJ de Rio ?
Ce que moi je trouve à chaque fois, c'est vraiment cette organisation qui est fantastique, voir qu'on est capable d'accueillir l'autre, quel qu'il soit, avec ses différences, ses handicaps, ses fragilités. Ça, c'est toujours une joie et tant mieux. Qu'on puisse s'accueillir les uns les autres de façon toute simple aussi. Hein. Il n'y a jamais de. Même s'il y a une grande logistique et de grands moyens, mais l'accueil est vraiment toujours très fraternel. Voilà, comme si on était des membres de la famille. Ça qui est chouette. Alors, au Brésil, on connaît la réputation de nos amis brésiliens. Et je pense que cette dimension de fraternité, de vie de famille, d'église famille même, va être très forte et c'est ça qu'on attend.
Ce lundi, élection générale anticipée à Harare, les diplomates zimbabwéens en poste à l'étranger ainsi que près de 87 000 personnes, militaires, policiers, membres des principaux organes sécuritaires du Zimbabwe, ont commencé à voter par anticipation 2 semaines avant l'élection du 31 juillet, qui opposera à nouveau le président Robert Mugabe, 89 ans, au Premier ministre Morgan Tsvangirai, 61 ans. Le 31 juillet prochain, la conférence épiscopale du Zimbabwe dépêchera 2400 observateurs dans les bureaux de vote. C'est ce qu'a annoncé le directeur de la commission Justice et Paix. Nous appelons les gens à aller voter, a-t-il dit, à voter de manière pacifique, en tenant compte du fait que le choix de ses dirigeants s'inscrit dans le cadre de la responsabilité pastorale de chaque chrétien. Il précise que ces observateurs catholiques sont un moyen d'encourager une population qui a perdu confiance depuis les violences qui ont caractérisé les élections de 2008. Le spectre de ces violences post-électorales ressurgit d'ailleurs au Zimbabwe, c'est ce qu'explique Amnesty International qui a publié vendredi un rapport. On écoute tout de suite Quentin Ferral, coordinateur pour l'Afrique australe à Amnesty France.
Amnesty International a mené de nombreuses enquêtes sur le terrain depuis 2008. Il y en a une quinzaine au total où des militants des droits humains ont été interviewés, des autorités aussi officielles ont été interviewées, des journalistes. plus récemment, ce qu'on constate, c'est que depuis l'adoption de la Constitution, de nombreuses intimidations de la part des forces de sécurité entravent le travail des ONG locales au Zimbabwe. Par exemple, 3 militants de ZimRights, une association de défense des droits de l'homme au Zimbabwe, ont été arrêtés le 4 juin 2013. Ils ont été retenus pendant toute la journée dans les locaux de la police, ils ont été interrogés et après relâchés. Donc il n'y a pas de poursuite judiciaire à chaque fois, mais ce sont des intimidations, un harcèlement. Et plus récemment aussi en juin, des locaux d'ONG ont été visités de manière à dissuader ces gens-là de faire leur travail et aussi, in fine, à dissuader les citoyens zimbabwéens d'aller voter aux élections présidentielles.
Pourquoi le Premier ministre, Marianne Djangiraï, n'est pas parvenu à déjouer le contrôle de Robert Mugabe sur toutes ces forces de sécurité qui mettent à mal ainsi ces organisations de défense des droits de l'homme ?
Il y a quelque chose qui est très clair et que Amnesty International révèle, qui est très connu, c'est que toutes ces forces de sécurité, que ce soit la police ou l'armée, sont des autorités complètement inféodées à Robert Mugabe, à la ZANU-PF, donc le ZANU-PF, le parti du président Robert Mugabe. Donc il y a quelqu'un comme par exemple Augustin Chiuri, qui est le commissaire principal, le responsable de la police au Zimbabwe, qui est quelqu'un de très proche de Robert Mugabe. Et donc ils reçoivent ces directives des plus hauts dignitaires du régime pour entraver le bon déroulement des élections. Et ce qu'on craint, nous, c'est que les violences s'accentuent et qu'il peut-être que des événements comme ce qui s'est passé en 2008 se reproduisent, à savoir la mort de 200 personnes.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. La 16e Assemblée plénière du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, organisée à Kinshasa, vient de refermer ses portes. Au terme de 8 jours de rencontres, les évêques catholiques estiment dans un message que l'Afrique a besoin d'un bon samaritain en politique. Ils ont appelé les dirigeants politiques du continent à ne pas travailler pour leurs propres intérêts, mais pour le bénéfice de tous. Ils ont également invité les Africains à s'engager urgemment dans le combat pour une société juste dans laquelle chacun peut jouir des droits liés à sa dignité humaine. Dans leur message final, les cardinaux, archevêques et évêques lancent également un appel pressant et pathétique, disent-ils aux Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine, aux gouvernements des autres pays impliqués de quelque manière que ce soit en RDC afin qu'ils s'engagent résolument à mettre fin à la guerre qui n'a que trop duré en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu. Les combats ont d'ailleurs repris, faisant 130 morts et plus de 30 000 déplacés. On en parle avec l'abbé Santedi, le porte-parole de la conférence épiscopale de la RDC. Il est interrogé par Maxime Babser.
Des paroisses ont été pillées, des centres de santé, des personnes ont été enlevées et c'est dans ce sens que les évêques ont lancé un appel vibrant. C'est un grand défi pour nous, cette reprise de guerre. Et dans le message des évêques, ils demandent vraiment l'opérationnalité effective sur le terrain de la brigade d'imposition de la paix déterminée par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et quels peuvent être vos moyens à vous en tant qu'Église pour agir sur ces combats et peut-être pour mettre la pression sur le gouvernement ?
Nos moyens, c'est d'abord la parole des prophètes, la parole des évêques. Nos moyens aussi comme Église, c'est de prêcher, c'est d'apporter au peuple le réconfort, ceux qui sont victimes de cette situation. Et nous espérons qu'avec cet appel, ceux qui apportent une aide aux groupes armés pourront éventuellement écouter cet appel et c'est aussi notre prière pour que le Seigneur convertisse les cœurs de ceux qui font la guerre, de ceux qui la planifient et de ceux qui l'exécutent sur le terrain.
Et pensez-vous que ça puisse rapidement se terminer, les combats ?
Bon, c'est notre espoir que ça se termine rapidement, mais nous savons que les choses sur le terrain se présentent d'une manière un peu difficile à démêler, mais au moins que la brigade soit opérationnelle. Et nous espérons qu'elle pourra, avec tous les moyens dont disposent les Nations Unies, venir à bout de ces groupes armés.
Direction l'Asie, aide à l'Église en détresse s'inquiète des tensions persistantes au Bangladesh. Depuis plusieurs mois maintenant, des attaques visent les communautés chrétiennes et bouddhistes, largement minoritaires dans ce pays à 90% musulmans. Dans le diocèse de Dinajpur, au nord-ouest du pays, des catholiques ont été attaqués à plusieurs reprises par des groupes musulmans. C'est ce que confirme Véronique Vogel, la responsable des projets de l'AED en Asie. Selon l'évêque de Dinajpur, Mgr Sébastien Toudou, une mission dans la localité de Boulakipur a même été placée sous la protection d'une trentaine de policiers. Au-delà de ces attaques, obéissant souvent, on le sait, à des raisons somme toute prosaïques, comme l'accaparement des terres par exemple, c'est bel et bien l'influence islamiste de plus en plus prégnante qui suscite les préoccupations de l'AED. Je vous propose d'écouter Marc Fromager, il est directeur de l'AED France, il est interrogé par Manuela Afidji.
En réalité, il y a de plus en plus d'attaques dans le pays qui concernent l'ensemble de la population. Je rappelle simplement, en 2005, il y avait eu une série d'explosions simultanées déclenchées sur tout le territoire. Et donc là, ça visait l'ensemble de la population. C'était orchestré déjà par des groupes islamistes qui, on s'en rend compte, ont une stratégie qui ne date pas d'il y a quelques mois, mais de au moins deux décennies, voire sans doute un peu plus, de prise du pouvoir, et donc qui, petit à petit, sont en train de gangréner la société. Quand je dis gangréner, c'est un terme péjoratif, mais on s'aperçoit qu'ils sont effectivement en train d'essayer de créer une prise de pouvoir. Alors évidemment, dans ce contexte-là, comme souvent, ce sont les minorités qui sont les principales victimes, qui sont principalement visées. Et dans ce pays qui est majoritairement musulman, un pays de 142 millions d'habitants tout de même, une toute microscopique minorité de bouddhistes et de chrétiens qui entourent, représentent à peine 1%.
Ces attaques qui visent ces minorités sont essentiellement motivées par des mobiles religieux donc.
Alors au départ, pas forcément. On s'aperçoit que souvent, dans ces pays, tout est mélangé, tout est relié. Régulièrement, c'est pour des disputes qui peuvent être des disputes de voisinage, des disputes de propriété. Dans les villages, par exemple, on va chercher à récupérer le terrain d'une famille chrétienne ou bouddhiste. Il faut savoir que c'est un pays surpeuplé, 142 millions d'habitants pour une superficie assez petite, 144 000 km², c'est-à-dire beaucoup plus petit que la France. Donc un pays avec une densité de population gigantesque. La moindre parcelle de terrain a de facto une valeur importante. Et donc on va, en général, pour des raisons tout à fait prosaïques, s'en prendre, notamment aux minorités, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Et ensuite, on va envelopper ça d'un sentiment religieux en prétextant qu'ils ont blasphémé ou qu'ils ont dit quelque chose qui portait atteinte à l'honneur de l'islam. En fait, c'est une utilisation pour des fins, encore une fois, prosaïques, en général matérielles ou politiques, du sentiment religieux. Et c'est là que c'est tout à fait regrettable, d'autant plus que ce soit les bouddhistes ou les chrétiens, il n'y a pas de provocation de leur part. Il y a d'autant moins de provocation qu'ils savent très bien être une minorité et être dans un climat déjà tendu à la base.
Un climat donc tendu, une islamisation galopante de la société. Qu'est-ce que ça peut donner à plus ou moins long terme comme scénario possible ?
Eh ben, c'est vrai qu'on est assez inquiet parce que, comme je vous le disais, c'est un phénomène qu'on observe déjà depuis assez longtemps. Si on s'en prend par exemple au nombre de madrassas, donc ces écoles coraniques où n'est enseigné que le Coran et aucune autre matière, il y en avait à peu près 4000 en 1986, donc il y a 25 ans. 25 ans, c'est une génération. Et en 2006, donc 20 ans plus tard, il y en avait 64 000. Donc vous voyez, c'est une augmentation exponentielle. Donc dans ces madrassas, ces écoles, si on faisait statistiquement le décompte déjà à l'époque, donc il y a quelques années, on arrivait au chiffre de plus d'une vingtaine de millions de jeunes gens qui auraient été formés au fondamentalisme, donc dans ces écoles coraniques. Et donc forcément, ça finit par marquer une population. Et la probabilité aujourd'hui pour que ce que nous observons, c'est-à-dire la croissance manifeste de la présence d'un islamisme radical dans ce pays, le Bangladesh, largement financé d'ailleurs par l'Arabie Saoudite, donc un islam rigoriste, wahhabite, extrémiste, qui est pas au départ la culture musulmane de ce pays, c'est qu'on arrive aujourd'hui et dans les années à venir au scénario le plus probable qui est la transformation de ce pays en un réel État totalement islamiste. Et malheureusement, on ne voit pas tellement de garde-fous ou de contre-pouvoirs permettant de s'opposer à cette évolution, ce qui fait craindre évidemment pour les minorités locales, qu'elles soient bouddhistes ou chrétiennes, une situation de plus en plus compliquée dans les années à venir.
Et déjà mobilisés contre les Bangladais ne partageant pas leur confession, les musulmans bangladais pourraient devenir plus agressifs. Encore, c'est ce que craignent les analystes après un verdict prononcé ce lundi par un tribunal à Dhaka, dans la capitale. Ghulam Azam, le chef spirituel du plus grand parti islamiste du pays, le Jamaat Islami, a été condamné à 90 ans de prison pour des atrocités commises sous sa responsabilité lors de la lutte pour l'indépendance du pays contre le Pakistan en 1971. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine en langue française.